Moi, ce que j'ai juste envie, c'est qu'on rende gloire à Dieu qui a répondu à leur prière, qu'on puisse applaudir le Seigneur. Il est tellement bon. Gloire à Dieu. Et je suis vraiment tellement encouragé ces temps de voir que Dieu répond aux prières. Comme on l'a entendu avec cette famille, Céline, Samuel, mais récemment, on a pu voir et j'ai pu voir des exaucements tellement fous où Dieu répond et rapidement. On a eu tout un temps de témoignages jeudi soir à notre soirée percée et c'est tellement encourageant de voir le nombre de personnes à qui Dieu a répondu. On voit que Dieu agit. Et récemment, dans notre groupe ressources, aussi, on a pu vraiment vivre des exaucements de prière. On a prié, par exemple, pour une situation professionnelle compliquée de quelqu'un où ça tournait vraiment mal. On a prié ensemble et le lendemain matin, revirement complet sur cette place de travail, dès le matin, c'était inespéré. On a vu des réponses et des changements dans des relations, couples, appartements, des portes qui semblaient verrouillées, où tout à coup, Dieu répond. Dieu, il ne voit pas les portes fermées, mais il voit ce qu'il y a derrière et il peut les ouvrir. Bien sûr, parfois, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas ou ne nous a pas répondu. Et ce n'est pas là-dessus qu'on veut mettre le focus ce matin. Et je vais être authentique, c'est vrai, on n'a pas toutes les réponses, on est en chemin encore. Et il y a des réponses qu'on attend encore à nos prières. Mais ce que je sais, c'est que Dieu voit au-delà de ce qu'on voit. Et parfois, ce qu'on croit comme une non-réponse est en fait encore mieux pour nous ou pour les personnes qui nous entourent. Et j'ai pu le constater personnellement dans plusieurs domaines, vraiment de nos vies et de ma vie ces dernières années, tellement de fois où tout à coup j'ai réalisé avec le recul, ah, c'était quand même mieux qu'il n'ait pas répondu tout de suite ou qu'il ait répondu de telle manière. Et je lisais l'autre jour une histoire d'un pilote d'avion brésilien, Antonio Senna, alors qu'il faisait un vol au-dessus de l'Amazone, en plein milieu, il s'est crashé suite à un problème technique et il s'est retrouvé seul au milieu de la jungle. C'est une histoire vraie qui a été relayée par Euronews et par beaucoup de journaux. Et les jours ont commencé à passer sans que personne ne vienne le secourir. Et il a commencé à douter qu'on arrive à le retrouver. Et il a dit... J'ai monté un abri à côté de l'avion dans l'espoir que des équipes de sauvetage me voient. Et je suis resté 8 jours et j'ai vu que des équipes de sauvetage survolaient la zone, mais ils ne m'ont pas vu. Et il a tenu le coup en mangeant des fruits. D'ailleurs, il explique, c'est en voyant les singes manger telle sorte de fruits qu'il les a aussi mangés, des œufs d'oiseaux en buvant de l'eau de pluie. Et il pleuvait tout le temps et il dormait sur des feuilles mouillées. Et le plus dur, c'est que c'était impossible. Pourtant, il avait un briquet ou des allumettes. Il n'arrivait pas à allumer un feu tellement c'était humide, tellement il pleuvait. Et il a dit, les nuits étaient vraiment terrifiantes. J'avais très, très peur. Surtout de la pluie qui était torrentielle. J'avais peur que des branches se cassent et tombent sur moi et me tuent. Et là, son corps commence à faiblir. Et tous les jours, il priait, Seigneur, arrête la pluie, arrête la pluie. Et puis, il continuait de pleuvoir. Et ça devenait insupportable et la fatigue et le désespoir commençaient à prendre le dessus. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Et le 36e jour, la réponse est arrivée. Et il est tombé sur des cueilleurs de noix. Ce n'est pas une réponse à la noix, ça. Il est tombé sur des cueilleurs de noix. Et sa première question à cette équipe, il leur a dit, « Mais comment est-ce que vous êtes arrivés ici ?» Et ils ont répondu, On a réussi à atteindre cet endroit uniquement parce que la pluie a élevé le niveau de la rivière. Sans que la rivière soit pleine, le bateau ne serait jamais arrivé à cet endroit, ici. Et lui qui pensait que Dieu ne répondait pas à sa prière d'arrêter la pluie, Dieu voit au-delà de ce qu'on voit. Et parfois on est déçu parce qu'on voit que Dieu ne répond pas à nos prières, comme on l'imagine. Mais Dieu y voit plus loin. Dieu y voit plus loin. Il voyait plus loin dans sa situation. Quel exaucement! Et il a témoigné ensuite à ceux qui traversent des épreuves. Je ne sais pas dans quelle forêt vous vous trouvez, ni quel est le problème, mais n'abandonnez pas. Ayez foi en Dieu. Faites-lui confiance. Remettez votre vie entre ses mains et continuez à marcher. Continuez à vous battre pour que Dieu vous accorde la victoire. Vous ne pouvez en aucun cas abandonner. Le temps est à Dieu, mais la bataille est la nôtre ici. Et vous devez donc vous battre. Et avant d'entrer pleinement dans le message ce matin, j'aimerais vraiment prier ce matin pour plusieurs, parce que je crois que cette histoire, non seulement elle va introduire le thème de mon message, mais je crois que ce matin, il y en a plusieurs qui ont été comme désillusionnés, avec l'impression que Dieu n'entend pas vos prières. Mais il est là, et il désire le meilleur pour vos vies. Il voit au-delà des circonstances. Il voit au-delà de ce que tu vois. Et ne vis pas ton épreuve sans lui, mais avec lui. Et il désire marcher avec toi. Il désire que tu puisses lui faire confiance. Et Seigneur, je te prie ce matin de toucher le cœur de chacun. Viens en particulier toucher ceux qui, comme cet aviateur, sont comme dans une forêt où ils prient et ils ne voient pas la réponse arriver. Et Seigneur, je te prie, alors que toi tu vois au-delà, de te révéler, de toucher les cœurs. C'est toi, Seigneur, qui es celui qui peut faire l'impossible. C'est toi qui ouvre les portes. C'est toi qui réponds aux prières en temps voulu. C'est toi, Seigneur, qui permet, comme pour Samuel et Céline qui n'arrivaient pas à avoir ce deuxième enfant, d'en avoir un. C'est toi qui permet à cette personne du groupe qui devait quitter son appartement d'y rester. C'est toi qui permet, Seigneur, de transformer des relations de couple. C'est toi qui permet, Seigneur, d'exaucer et d'agir puissamment. Et je te prie, Seigneur, ce matin, de continuer à répondre aux prières et de donner un espoir, de renouveler cet espoir et de guérir les déceptions d'un Dieu qui, semblerait-il, n'aurait pas répondu. Et viens toucher les cœurs, Seigneur. Viens toucher les cœurs. Et je veux libérer, Seigneur, un espoir nouveau, une foi nouvelle. Tu es celui qui répond de la meilleure manière. Et je veux libérer des exaucements de prières ce matin pour plusieurs, au nom de Jésus. Amen. Et ce pilote d'avion, ce miraculé, il voyait la pluie comme un non-exaucement, comme une punition, alors qu'elle a été le moyen qui l'a sauvé. Et parfois, on voit un non-exaucement comme un échec. Et on demande à Dieu d'enlever la tempête, alors qu'en fait, c'est la chose même qui va apporter le bateau de notre miracle. Dieu voit plus loin que nous. Et parfois, ce qu'on pense bon pour nous, mais lui, il a encore le meilleur. Il a un meilleur plan. Et Dieu voit plus loin. Il voit plus grand. Il voit de façon plus puissante. Et parfois, on est tellement pris par nos circonstances que de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, qu'on ne réalise pas vraiment que la vérité, elle est plus vaste que ça. Je partageais une fois un message dans un culte petit-déj qu'on avait fait, de deux jumeaux, alors c'est juste une invention, mais c'est juste une image de deux jumeaux qui discutaient dans le ventre de leur mère. Et puis il y a un qui demande à l'autre, tu crois qu'il y a de la vie après l'accouchement? Et puis l'autre qui dit, bien sûr que non, on ne voit rien, il ne doit rien y avoir. Et on utilise cette parabole, si je puis dire, de parler de la vie après la mort. C'est tellement parlant. Eux, ils s'imaginent qu'il n'y a plus rien après, comme nous, des fois, dans notre train-train, on s'imagine que ça se finit à 90 ans. Ou sans, mais la vie va bien au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend, et même de notre propre vie qui est éternelle. Mais cette image nous montre aussi, et c'est là que je veux en venir, que les jumeaux, entre guillemets, ils voient juste leur espace, et ils ne voient pas toute la réalité qu'il y a dehors. Et parfois, c'est pareil pour nous, et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. C'est qu'il y a une réalité qui ne s'arrête pas à ce que je vois. Il existe une réalité, un monde spirituel que mes yeux ne voient pas et qui pourtant existe et est bien réel. Et ce message, ce matin, il va aller un peu plus loin, il va aller dans la suite du message que Diane a donné il y a un mois, qui parlait de ce regard, d'avoir le regard de Dieu. C'est vraiment un excellent message que vous pouvez réécouter sur notre site internet, dans l'onglet « Messages ». De voir au-delà des apparences, de ne pas voir petit, mais de voir grand avec les yeux de la foi. Voir au-delà de ce qu'on voit physiquement, de ce qu'on ressent, au-delà de ce qu'on croit vrai comme cet aviateur. Voir non seulement le monde terrestre, mais aussi le monde spirituel. Et ce matin, j'ai envie de parler ensemble, qu'on puisse parler ensemble du discernement. Et c'est le titre de mon message, de discerner au-delà de l'évidence. Discerner au-delà de l'évidence. Et je désire tant surfer sur la suite du message de Diane, mais aussi de ma série de messages qu'on a eu depuis ce début d'année, où j'ai parlé du peuple qui a quitté le désert pour s'emparer du pays promis. et vraiment aller comme un niveau suivant par rapport à un autre regard que Diane mentionnait. Ce peuple qui a quitté l'Égypte, mais qui a gardé dans son cœur la mentalité d'Égypte. Et du coup, ils ont tournicoté pendant 40 ans dans le désert. Mais par la foi, l'obéissance, et en suivant l'arche, en suivant la présence de Dieu, ils ont passé le Jourdain. Ils sont arrivés à Gilgal, j'ai prêché ça il y a 6 semaines, et ils ont laissé Dieu guérir leur cœur, circoncire et transformer leur cœur. Ils ont pu vaincre ensuite Jéricho par la foi, à nouveau en ne regardant pas aux problèmes et aux défis, parce qu'ils avaient regardé à ces murailles infranchissables, ils auraient été découragés, mais ils ont regardé à Dieu, ils ont regardé à sa présence, ils ont loué le Seigneur en regardant à l'arche, en tournant autour plutôt que regarder aux défis de la muraille. Ensuite, face à la ville suivante qui s'appelle Haï, ils se sont loupés. Ils ont voulu faire comme la dernière fois et ça n'a pas marché, sans être à l'écoute sur le comment, sur le timing, sur la manière. Et ils ont perdu la bataille. Mais du coup, ils ont compris, ils sont revenus à Dieu. Ils ont continué à de nouveau écouter Dieu. Et ce n'est pas parce qu'ils ont échoué une fois qu'ils se sont arrêtés à conquérir le pays. Et c'est tout un message en soi. Ce n'est pas parce qu'ils se sont plantés qu'ils ont arrêté de la conquête du pays. Et là, le peuple, ils ont essayé à nouveau face à cette même ville, en suivant cette fois les instructions de Dieu, et ça a marché. Ils ont gagné cette fois. Ils avaient une bonne écoute. Mais ensuite, il s'est passé un épisode assez fou, juste après ça. Et on voit ça dans Josué 9. Et vu que le peuple d'Israël, il commençait à conquérir le pays par des grosses victoires, ça commençait à discuter, et un peuple voisin, les Gabaonites, ils ont commencé à paniquer. Ils se sont dit, on est les suivants sur la liste. Ils étaient juste à côté, parce qu'ils savent qu'Israël avance. Alors ils vont avoir une idée, et ils vont faire semblant de venir très loin. Ils prennent des vieux sacs, des vêtements usés, des sandales abîmées, du pain sec et moisi. Et puis ils arrivent devant Josué en disant, « Oh, on vient d'un pays lointain, est-ce qu'on peut avoir un accord de paix ?» Tout avait l'air crédible. Leurs habits avaient vraiment l'air vieux, le pain avait vraiment l'air sec, le scénario tenait la route. Mais c'était un piège. Et Josué et le peuple, ils vont tomber dans le panneau et passer un accord, une alliance avec eux. Et peut-être que ce matin, vous découvrez cette histoire, ou pas, mais on se dit, ah, ben, le peuple il s'est fait piéger, ça peut arriver à tout le monde. Ils ont bien joué le coup, ces Gabaonites. Ils se sont bien déguisés, c'était des bons acteurs. Peut-être qu'aujourd'hui, ils gagneraient l'Oscar des meilleurs acteurs. Mais ce qui est fou, c'est que la personne qui s'est fait avoir, ce n'était pas un novice, Josué. Alors bien sûr, il était plus jeune que son prédécesseur Moïse. Il venait de reprendre la direction du peuple. Mais ce Josué, dont on a parlé plusieurs fois dans mes précédents messages, Josué était un de ces deux espions avec Caleb qui, quand ils sont allés visiter le pays promis, eux avaient vu le potentiel. Ils avaient vu tout ce qu'il y avait. Ils avaient vu les villes et les fortifiés et les géants, mais ils ne s'étaient pas laissés arrêter à ça. Ils avaient vu juste, selon un regard de Dieu. Et la Bible le démontre, et j'en ai parlé plusieurs fois dans mes messages, c'est parce que Josué, pourquoi il a vu juste en allant visiter ce pays promis, plutôt que les autres qui ont été négatifs, c'est parce qu'il passait du temps dans la tente de la rencontre. Il y allait avec Moïse. Mais alors que la sommité Moïse, entre guillemets, sortait de cette tente, lui restait. Il jouait les prolongations, il restait dans la présence de Dieu. Il était un amoureux et passionné de la présence de Dieu. À tel point qu'il est devenu ce leader qui a repris le peuple, qui a entendu Dieu lui parler, et c'est lui qui a pu guider le peuple finalement d'arrêter de tournicoter et de passer le Jourdain et de s'emparer de ce pays promis. Il a entendu les instructions de Dieu. C'est lui, Josué. Quelle onction, quelle écoute. Et c'est justement lui qui n'a pas vu ce piège avec ces deux Gabaonites, qui a pris cette fiction pour la réalité. Quelle onction, quelle écoute. Et pourtant, il s'y se fait avoir. Il a pris un film pour une histoire vraie. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et j'ai vraiment senti que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Déjà peut-être parce qu'on se serait peut-être même pas aller autant loin que lui, on serait peut-être arrêté à temps. C'était déjà un challenge de quitter le désert, de quitter cette mentalité d'Égypte, de franchir ce Jourdain, de s'abandonner à Dieu, de suivre par la foi, de passer à Gilgal, circoncision du cœur, de se laisser transformer. Mais une fois tout ce chemin, Josué et le peuple se font avoir. Ils ont réussi à s'emparer de villes fortifiées imprenables, et là, le tout petit piège, et ils tombent dans le panneau. Et pourtant, si on regarde bien l'histoire, c'était même pas un excès de confiance. Humainement, ils avaient même l'œil. On voit dans Josué 9:6, quand les Gabaonites leur disent « Nous venons de très loin pour demander de passer un accord avec nous. » Les Israélites répondent « Vous habitez peut-être tout près de chez nous. Dans ce cas, nous ne pouvons pas passer un accord avec vous. » Et en fait, la première chose quand ils viennent avec ce piège, la première chose qu'ils disent, les Israélites, c'est « Mais vous habitez peut-être juste à côté. » Donc, il y a déjà comme le warning, moi j'appelle ça comme ça dans le discernement, déjà ils se disent « Mais tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne joue pas. Ils viennent peut-être de juste à côté, on ne va pas faire un accord. » Et leur première impression était la bonne. Ils avaient raison. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent la première impression, elle est aussi bonne quand Dieu est en nous. Et là, les Gabaonites, ils vont y aller par la flatterie, le mensonge. Ils vont même leur faire goûter de la nourriture pour leur montrer qu'elle était plus fraîche. C'est subtil, c'est de la manipulation. Et la manipulation commence souvent par la flatterie. Et elle continue même en reconnaissant qui est l'autre. « Oh, nous sommes tes serviteurs !» Et ils élèvent Josué pour l'entourlouper. Et la manipulation, c'est tout un chapitre. Ce n'est pas le sujet du jour. J'en connais un rayon, j'ai étudié pas mal de livres il y a quelques années sur le sujet, mais c'est quelque chose de très subtil et souvent difficile à déceler au premier abord. Ça prend du temps et parfois même des années. Mais je me suis quand même posé la question en lisant ce passage. Avec tout ce qu'ils avaient vécu avec le Jourdain, Jéricho, la ville d'Aï, mais tu te dis qu'ils ont dû retenir la leçon quand même. Et là, deux bons acteurs arrivent à les piéger. Pourquoi ? Pourquoi Josué, lui qui avait passé tellement de temps dans la présence de Dieu ? On a la réponse dans le texte. Ils ont entendu ce que les deux ont dit, ils ont vu les vêtements, ils ont même goûté la nourriture et le vin qui semblaient vieux. Et au verset 14, il est dit « Mais ils n'interrogent pas le Seigneur pour connaître sa volonté. » Et ce mot « chal » traduit par « interroger », parfois aussi par « consulter Dieu », ça veut dire « demander, chercher, prier ». Et c'est là qu'on voit l'importance de cette dépendance constante à Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, l'expérience ne remplace pas la dépendance à Dieu. L'expérience ne remplace jamais la dépendance à Dieu. Et le discernement commence quand on recherche la pensée de Dieu davantage que ce qui paraît évident. Davantage que ce qui paraît évident. Et cet exemple, c'est tellement frappant parce que humainement, ça peut être notre vie. On se fait un avis en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on ressent. Et puis il y a une phrase qu'on entend souvent, « Il faut écouter son cœur, il faut agir selon ton cœur. » C'est ce que Josué et le peuple ont fait, mais c'était faux. Et c'est comme ça qu'on peut tomber dans le panneau. C'est comme ça qu'on se fait avoir, par exemple, dans des relations. On trouve quelqu'un de si sympa, si beau, si belle. La personne nous dit comment elle voit les choses, et puis on peut se laisser enfumer ou flatter, comme avec ces Gabaonites. Peut-être que ça nous a flattés, le bien qu'ils pensaient de nous, qu'ils nous admirent. Mais si on ne passe pas par la case « chercher Dieu », on va se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit ? Et il y a un verset bien connu, mais qui dans ce contexte est vraiment puissant, dans 1 Samuel 16:7, et j'aime la traduction parole de vie, où Dieu dit « Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi je regarde le fond du cœur. » Je regarde le fond du cœur, c'est le Seigneur qui parle. Et ce mot « lebab » traduit par « cœur », ça veut vraiment dire « homme intérieur, esprit, volonté, âme, compréhension ». Donc Dieu regarde plus loin que ce qui se voit à l'apparence, mais à l'esprit qu'il y a. Et la question à se poser, c'est quelle est la pensée ou l'esprit qu'il y a derrière telle situation ou même telle personne? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qui compte au-delà de ce que je vois, de ce que je perçois, de ce que je ressens. Quel est le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il en pense? Pas parce que c'est juste lui qui va dire oui, non, bien, pas bien. Non. Mais parce qu'il voit au-delà. Il voit au-delà de ce que je vois. Il voit au-delà de ce qu'on nous dit. Il voit au-delà de ce qu'on ressent. Alors qu'on a été peut-être mis en valeur, qu'on se sent bien avec l'autre, avec les autres, dans telle situation. Dieu voit une dimension qu'on ne voit pas. Il voit pourquoi ce scénario se passe. Dieu voit la stratégie invisible. Il voit la dimension spirituelle qu'il y a derrière. Dans tout ce qu'on voit, ressent et comprend humainement, lui, il voit une autre dimension encore. Et on voit par là qu'on a besoin de cette faculté de voir au-delà des signaux humains, au-delà de nos cinq sens, quelque part. On a besoin de discernement. Et c'est mon premier point ce matin. C'était ça, le besoin de discernement. Et le fameux prédicateur Charles Spurgeon a dit « Le discernement ne consiste pas à distinguer le bien du mal, mais à distinguer le bien de ce qui lui ressemble. » Distinguer le bien de ce qui lui ressemble. Et cette histoire des Gabaonites, c'est vraiment parlant. Ça semblait bien, ça semblait crédible, ça semblait concret, vérifiable. Ils ont même goûté la nourriture, mais c'était faux. Mes amis, le discernement est indispensable. Et après ça, la question c'est, alors si le manque de discernement peut nous tromper, à quoi ressemble quelqu'un qui a vraiment ce discernement puis qui voit clair? Et la Bible nous donne justement un modèle incroyable avec les fils d'Issacar. Et c'est mon deuxième point ce matin. Un modèle de discernement. On est plusieurs siècles plus tard. Et cette fois, Israël est dans une période de transition importante. Saül arrive à la fin de son règne. David est en train d'émerger. Et tout le peuple doit discerner ce que Dieu est en train de faire. Et au milieu de tous ces guerriers, de toutes les tribus, la Bible met un focus particulier sur un groupe précis. Dans 1 Chronique 12, 32, il est dit « Des fils d'Issacar étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Capables de discerner les temps. Et ils ne sont pas juste décrits, ces gars, ces fils, comme forts, pas juste comme courageux, pas juste comme spirituels, mais comme des hommes capables de comprendre les temps, de discerner les saisons, de savoir quoi faire. Et le vrai discernement, ce n'est pas juste de voir ce qui se passe, même dans l'esprit, mais c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire au milieu de ce qui se passe. Et dans ce verset, discerner les temps, traduit parfois par intelligence des temps, ce mot hébreu, discerner, bina, qui vient de bin et yada, veut dire comprendre, distinguer, connaître avec l'esprit. C'est fort, ils arrivaient à distinguer, à percevoir, à discerner, connaître avec l'esprit, un discernement qui permet de distinguer ce qui est juste, ce qui semble bon, mais pourtant qui n'est peut-être pas le meilleur que Dieu a prévu, comme plan excellent. Et non seulement à distinguer de ce qui est visible, de ce qui est de l'humain, et de ce qui est invisible, mais aussi cette intelligence des temps, le timing. Le timing est tellement important. Et c'est l'orateur T.D. Jakes qui a dit « Un bon timing vaut parfois mieux qu'une bonne idée. » Et on peut voir juste, mais il faut saisir le temps, le bon moment. Est-ce que c'est pour tout de suite? Est-ce que c'est pour tout de suite? On peut percevoir quelque chose, mais c'est peut-être pour le futur. Et ça fait partie pour moi du package, du don de discernement, de distinguer les temps et le bon moment. C'est quelque chose qui vient de Dieu. On voit notamment Joseph, quand il est en Égypte, qui discerne qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Alors c'était par un rêve, mais ensuite par ce discernement, il comprend ce qu'il va devoir faire avec les temps et les saisons, qu'il va falloir agir en conséquence et faire des réserves. Et ça va sauver toute l'Égypte et même son peuple du coup. Au contraire, un manque de discernement des temps peut tout faire foirer. On l'a vu avec le peuple d'Israël dans Nombre 13-14. Dieu ouvre la porte, ils sont libérés d'Égypte. C'est le temps d'aller dans le pays promis et ils ne comprennent pas le bon moment. Ils ne comprennent pas que c'est le temps, que c'est le bon timing. Et ils sont repartis pour 40 ans à tournicoter. Ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas discerné que c'était le temps favorable. Un autre exemple dans 1 Samuel 13, c'est Saül qui voit son armée commencer à paniquer, à se disperser devant les Philistins, devant l'ennemi. Et Samuel lui avait demandé d'attendre son arrivée pour offrir un sacrifice, pour prier, puis transmettre une direction de Dieu. Mais Saül, il est pressé et sous pression, il décide de faire ça lui-même, d'offrir un sacrifice avant le bon moment. Il fait quelque chose de bon, il fait quelque chose de juste, un sacrifice. C'est peut-être une bonne chose dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas le bon timing. Il a agi trop tôt. Et c'est ça qui va lui faire perdre la royauté. Ça va lui faire perdre la royauté à partir de ce moment-là. Et on peut recevoir une pensée pour quelqu'un, une parole prophétique, mais le discernement nous aide à sentir le bon timing, le bon moment. Est-ce que c'est pour maturer dans la prière et l'intercession, pour pouvoir agir ou transmettre au bon moment? Ou est-ce que c'est pour aller tout de suite le partager? Des fois, on reçoit une pensée et on croit qu'on l'a reçue maintenant. Alors, parce qu'on l'a reçue maintenant, il faut la donner maintenant. Mais Dieu nous donne de sentir non seulement la pensée, mais aussi le timing. Ça permet à l'encouragement, à la pensée encourageante, de tomber à point nommé, le jour J, à l'heure H, juste au bon moment. Et c'est là que c'est puissant. Et le pasteur Oswald Chambers a dit la chose suivante, « Dieu ne parle pas plus fort pour se faire entendre, mais plus clairement pour ceux qui écoutent. » Et pour ces fils d'Issacar qui étaient capables de discerner, ce n'est pas juste de savoir ce qui se passe, mais c'était de comprendre ce que ça signifiait, pour savoir ce que devait faire le peuple. Ils ne faisaient pas que discerner, ils savaient quelle décision prendre. Et c'est tellement ce qu'on a besoin dans plein de situations des fois, de savoir quelle décision prendre. Et ils étaient capables de lire les saisons spirituelles et naturelles, de comprendre les enjeux et de prendre la bonne direction au bon moment. Et quand on voit ça, on se dit, mais il y a quelque chose de divin. C'est plus que de l'intuition, il y a autre chose là derrière. Mais la pensée qui nous permet de voir la situation, de comprendre quoi faire au bon moment, c'est quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Et moi, je veux ça. Moi, j'ai envie de ça dans ma vie. C'est indispensable. Et de voir le mauvais exemple face aux Gabaonites, mais aussi le bon exemple de ses fils d'Issacar, moi, ça me donne envie d'aspirer à ça, d'avoir ce discernement dans ma vie. J'ai soif de pouvoir voir comme Dieu voit, de voir au-delà de ce que je ressens, que j'entends, de ce qu'on me dit, de voir ce qui se passe dans l'esprit pour pouvoir agir et pouvoir aussi sentir les temps et les moments et agir au bon moment. D'avoir ce discernement divin au-delà des évidences. Et après avoir vu maintenant ensemble notre premier point, le besoin de discernement et ce modèle de discernement, j'aimerais qu'on se penche, et ça sera mon troisième point, sur la source du discernement. Et le prophète Ésaïe nous parle de l'Esprit de Dieu qui va venir avec la venue de Jésus. Il le prophétise bien avant, dans Ésaïe 11. Il dit « Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Et là, il est en train de parler de Jésus qui est de la lignée généalogique de David. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement. » Esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et il fait mention des sept esprits de Dieu. Et j'avais fait un message là-dessus il y a environ un an. Mon message s'intitulait Pentecôte 7.0, où avec l'image du chandelier à sept branches dans le tabernacle, l'Esprit de Dieu a sept facettes, sept esprits. Avec l'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de puissance, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Voilà la source du discernement. C'est dans l'ADN et la nature du Saint-Esprit. C'est lui, ça vient de là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour être plus charismatique, avoir des expressions spirituelles qui se voient peut-être comme la prière pour les malades, la prophétie ou de la puissance. Bien sûr qu'il y a ça, c'est la nature même de Dieu qui nous communique aussi la sagesse, le discernement. C'est-à-dire, comme on a vu avant, pour saisir le temps, les saisons, le quoi, le quand, le qui, le avec qui. Et cette liste des sept esprits de Dieu, dans Ésaïe 11, se conclut avec le verset 3. « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence. » Et c'est ce que produit cette source de l'Esprit quand le Saint-Esprit est en nous. Il nous donne ces sept facettes, mais cet esprit de discernement qui fait qu'on ne va pas juger sur l'apparence. C'est exactement ça le discernement. Et avec cette plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, on va voir au-delà de ce que voient nos yeux, mais aussi au-delà de ce qu'on ressent. ce que dégage telle situation ou telle personne. Et c'est le prédicateur Derek Prince qui a dit la chose suivante. Le discernement vient quand la vérité de Dieu devient plus réelle pour toi que tes sensations. Le discernement vient quand la vérité de Dieu devient plus réelle pour toi que tes sensations, c'est-à-dire ce que tu vois avec tes sens ou sens. Le Saint-Esprit, avec toutes ses facettes, dont cet esprit de discernement, ça débloque dans nos vies une perception divine. Et c'est challengeant, parce qu'à longueur de journée, on a des informations, on voit de nos yeux, on entend, on lit, on perçoit les choses, les gens, on nous raconte. On est bombardé tout le temps d'informations sans arrêt. Et pour voir les choses d'une façon divine et spirituelle, ça demande d'être rempli du Saint-Esprit et aussi d'entretenir cette relation pour que la voix du Saint-Esprit, elle parle plus fort que tous ces signaux qu'on entend, qu'on voit physiquement, qu'on entend, qu'on ressent, que ça parle plus fort que ça. Que ce Saint-Esprit, on le perçoive, qu'on l'entende, qu'on le voit, qu'il nous parle. Sinon, comment on va communiquer la sagesse, le discernement, la puissance, etc. Y être de temps en temps dans la présence du Saint-Esprit, par exemple dans un culte, dans un groupe ressources ou lors d'un événement, ça ne va pas suffire pour développer cette relation, pour que la voix de l'Esprit parle plus fort dans nos vies que tout ce qu'on voit et entend qui paraît évident. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisé, ça veut dire continuellement immergé, ce n'est pas un bonus, c'est juste indispensable. C'est indispensable. Le discernement, c'est une faculté surnaturelle de voir au-delà des apparences. Pas juste une déduction, c'est un don. C'est encore autre chose que d'avoir une perspective différente en voyant depuis en haut ou autre. C'est un don. C'est davantage que de voir en étant renouvelé ou ancré dans la parole. Et c'est le dernier point de mon message ce matin, c'est que le discernement, c'est un don. Le don de discernement, c'est un don spirituel. Le discernement spirituel va au-delà d'un regard avec une autre perspective. C'est comme si tu voyais les choses avec une caméra thermique qui va voir spirituel ce qu'on ne peut pas voir, en fait. Et ça permet de voir l'ennemi, de prendre autorité aussi sur ce qui est caché, puis qui ne se voit pas. On ne voit rien, on voit peut-être une belle maison magnifique, puis on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne voit pas qu'il y a peut-être déjà des voleurs à l'intérieur. Le don de discernement, c'est techniquement la capacité surnaturelle à discerner ce qui se cache derrière telle situation, le caractère ou l'identité même des esprits, du monde spirituel. Et d'ailleurs, la Bible décrit le discernement comme un des dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, Paul parle des dons spirituels comme donnés par le Saint-Esprit pour l'Église. Il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance, il y a la foi, le don des guérisons, des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, c'est un don. Le don des langues, l'interprétation des langues. Et puis ensuite, Paul, il nous dit, aspirez aux dons les meilleurs de toute cette liste. Aspirez aux dons les meilleurs. Et vous savez, ce mot aspirer, ça vient du grec zélos. Brûler de zèle, bouillir d'envie. Et moi, je trouve que le discernement, ça fait partie des meilleurs. Avec ce que je vous décris ou ce que je réalise en préparant ce message, moi, c'est quelque chose que j'ai absolument envie d'avoir dans ma panoplie de chrétien de tous les jours. C'est voir les choses, d'avoir cette caméra thermique pour voir au-delà juste des évidences. J'ai envie ce matin que ce message, ça ne reste pas juste une info ou un enseignement, mais j'ai envie de brûler de désir pour ce don. C'est ça, aspirer. Et pour moi, c'est indispensable si on a envie de s'emparer du pays promis, comme on en parle ces derniers temps. Voir s'il y a des gens, des esprits cachés derrière un talus. Si tu veux t'emparer d'un pays, puis qu'il fait nuit, parce qu'aujourd'hui, le monde, il est quand même ténébreux, et puis que tu ne vois pas jour, puis que tu ne vois rien, puis que tu tâtonnes, ben on peut tomber dans le panneau encore plus, de façon plus grotesque qu'avec les Gabaonites. On a besoin de voir dans l'esprit qu'est-ce qui se cache derrière telle chose. Aspirer aux dons les meilleurs, et c'est traduit meilleur, mais ça veut aussi dire le plus utile. Et comment se passer de jumelles thermiques alors que les ténèbres règnent sur la terre? Comment se passer de ça? Le discernement est un don auquel il faut aspirer, et que Dieu ne veut pas nous donner comme une récompense, mais c'est une grâce, c'est un cadeau. On ne mérite rien. C'est comme j'allais le dire avant dans la louange, sa présence, c'est juste un cadeau. Personne d'entre nous n'est digne. Jésus est venu dans une étable, il n'a pas attendu que ça soit picobello. Et Dieu veut venir dans nos vies par son esprit. Il veut aussi nous transmettre ses grâces, ses dons, le discernement et d'autres choses. Après, il vient nous sanctifier par son esprit, on va se donner à lui. C'est un cheminement, on en parlera encore juste après encore. Mais c'est un cadeau qu'il donne à ceux qui aspirent et qui brûlent de désir pour ça. Et ce mot discernement, ça veut dire, du grec diakrisis, ça veut dire distinguer entre deux choses. Et c'est le même mot utilisé dans Hébreux 5 qui dit de la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est un don qui permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, mais aussi de ce qui ne serait pas visible autrement. Ça permet de distinguer, de voir que cela vient d'une nourriture aussi solide. On le voit dans ce texte, la nourriture solide destinée permet de discerner. Et le verset d'avant nous dit, dans Hébreux 5, celui qui continue, verset 13, celui qui continue à boire du lait, donc c'est une image de boire du lait, une image spirituelle de notre foi, c'est un bébé. Il ne peut pas discerner ce qui est juste. Verset 14, par contre, la nourriture solide, elle est pour les adultes, c'est-à-dire les chrétiens matures. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Ça nous permet de ne pas rester des bébés spirituels, mais de devenir matures. Et c'est un don, on le voit là, non seulement qui vient par le Saint-Esprit, mais qui s'aiguise en mangeant la nourriture solide qu'est la parole de Dieu, la Bible, et en laissant la parole nous transformer. Et Paul précise dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 3, par rapport au lait. Et là, il est trash, Paul. Ça va, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Mais imagine si Paul, l'apôtre Paul, il venait te dire ça. Il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. Et le lait, le petit lait, c'est des vérités de la parole, c'est des bonnes choses, c'est des fondements qui viennent de la Bible. On voit ça après si on continue, mais je vais raccourcir dans Hébreux 6, etc. C'est bon, c'est parfait, ça nous nourrit, ça nous fait grandir. Mais si on est dirigé par notre propre nature, on pourra se nourrir de lait, des bonnes choses de la parole, des bonnes choses, des messages qu'on entend, de la bonne chose, des trouvailles sur les réseaux qu'on trouve. C'est juste la base, en fait. Mais ça ne va pas développer le discernement pour qu'on devienne mature et capable de discerner les choses par soi-même. Ça va nous nourrir, certes, mais il y a plus pour pouvoir s'emparer du terrain, du pays promis, sans tomber dans des embuscades. Et c'est le prédicateur Tozer qui a dit « Beaucoup veulent être bénis, mais peu veulent être formés, transformés. » Et Éphésiens 4, 11 et suivant nous montrent que Dieu a donné à l'Église les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants pour justement édifier le corps pour, je cite, « qu'on parvienne à la maturité de l'adulte et à la mesure parfaite de Christ. » Et le verset 14 de dire « Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés à tout vent d'enseignement par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » C'est ça le discernement. On n'est pas juste ballotté par des trends, des modes, les messages qu'on entend, peut-être un peu partout, qui la plupart du temps sont bons, mais à force d'entendre des fois les clés pour ceci, les sept clés pour cela, les trois clés pour ceci, on a des fois un immense trousseau, c'est toutes des bonnes choses. Mais des fois, on ne sait pas comment ouvrir la prochaine porte. Et qu'est-ce que Dieu désire dans ma vie et dans telle situation? Et quelle clé prendre? Et pour savoir quelle clé prendre pour ouvrir la porte qui est devant toi, dans ta vie, ce n'est pas juste le trousseau de tout ce qu'on entend, c'est cette relation personnelle avec le Saint-Esprit qui te donne le don de discernement pour discerner le temps, le timing et voir ce qui se cache derrière la porte, si c'est une bonne porte à ouvrir ou s'il faut la laisser fermer puis aller ailleurs. Le discernement nous permet de garder le cap. Cette capacité à pas juste être influencé par des personnes habiles qui vont plutôt tourner les choses à leur avantage plutôt qu'au royaume de Dieu. On en a parlé avant. la manipulation, cette capacité de distinguer, de voir, c'est-à-dire un discernement qui vient de cette nourriture solide où on a maturé ça dans notre cœur. Et la nourriture solide, c'est quoi la différence avec le simple petit lait, le lait ? C'est Matthieu 13, 23, j'ai bientôt terminé, mais laissez-moi encore dire ceci. Matthieu 13, 23, celui qui a reçu la semence dans les bons, la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Et la bonne terre, c'est plus qu'une vérité, c'est la parole de Dieu, c'est des bons messages qui viennent en nous, qu'on mange, on les intègre, on les laisse prendre racine en nous. Et ensuite, et là ce verset il est fou, dans le contexte de ce message, dans Romains 12, par rapport à ça, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. » Et quand on lit la parole de Dieu, qu'on passe du temps dans sa présence, qu'on laisse ces choses venir en nous, mais pas comme une information seulement, mais carrément nous transformer et qu'on aligne notre vie sur la Bible et la parole de Dieu, ça nous permet de discerner, afin que vous discerniez. Et cette nourriture solide, c'est de laisser le Saint-Esprit remplir nos vies. C'est ce lieu secret où il vient guérir nos cœurs, comme on l'a entendu lors du dernier culte, où le laisser venir, non seulement guérir nos cœurs, mais carrément nous transformer. Comment, quand on transforme une maison, il y a des murs à abattre, et des fois il y a des ouvertures, des fenêtres, des portes à mettre, à installer. Et il vient transformer nos cœurs, renouveler notre façon de comprendre. Renouveler, c'est-à-dire donner une intelligence nouvelle, une nouvelle compréhension, afin qu'on distingue, qu'on voit. Et ce n'est pas juste en entendant la parole qu'on discerne. Ce n'est pas juste en entendant même la Bible qu'on discerne. C'est quand elle transforme notre manière de penser. Et en résumé, j'ai bientôt terminé le groupe louange, vous pouvez déjà vous approcher pour la suite. En résumé, le discernement est un don, mais aussi une capacité surnaturelle qui vient quand on boit du lait, le lait de la parole, puis quand on mange cette nourriture solide, c'est-à-dire qu'on intègre ça dans nos vies. Mais pas juste engloutir, mais se laisser transformer en étant dans cette intimité du Saint-Esprit, intimité de la présence du Saint-Esprit. Et il va commencer à aiguiser nos yeux et nous permettre de voir toujours plus. Il y a bien des années, j'ai vécu une expérience particulière, particulièrement forte dans la présence de Dieu. Et ça a impacté ma vie pour discerner. Dans un temps de prière, dans la présence de Dieu, j'ai vécu comme un temps de mise à part, où mes yeux et ma bouche se sont fermés. Pendant 2 semaines, j'ai été aveugle. Comme l'apôtre Paul qui a vu le Seigneur sur la route de Damas et qui a vu cette lumière, cette lueur, et il a été aveugle pendant 3 jours. Ça a changé sa vie, sa manière de voir. Et pendant ces 2 semaines, j'ai vécu une proximité tellement forte avec la présence de Dieu. C'était vraiment un moment de paix et intense où le Saint-Esprit me parlait. Et j'étais encore à l'école biblique, j'étudiais la théologie et mes copains de classe, ils me menaient avec le bras dans les couloirs de l'école. Mais cette expérience intense, paradoxalement, mes yeux physiques se sont fermés, mais spirituellement, mes yeux se sont ouverts pour voir aussi au-delà du physique et du terrestre. C'est comme si j'étais passé dans un tunnel, alors que mon horizon s'arrêtait à des montagnes, j'étais passé comme à travers un tunnel et mon horizon est bien plus large, bien plus grande. C'est une grâce, c'est un don. Ce n'était pas juste une chance comme une pochette surprise, mais je crois que c'est à la suite, même si tout est grâce, mais c'est à la suite de tant de consécration, d'abandon à Dieu, de recherche de sa présence, de prière. Et là, Dieu vient ouvrir nos yeux spirituels. Alors l'autre jour, mon collègue Steve citait une phrase d'un homme de Dieu qu'il avait entendu. Et il a dit « Le plus grand ennemi de la vision, c'est la vue. » Parce qu'on voit de nos yeux physiques, qu'on perçoit, qu'on entend, des fois ça parle si fort, qu'on ne voit des fois peut-être pas ce que l'Esprit veut nous montrer qu'il y a derrière. Et cette expérience où Dieu m'a fermé les yeux physiques et fermé ma bouche, je pouvais juste ouvrir ma bouche pour prophétiser, donner des pensées de Dieu. Mais cette expérience où Dieu m'a fermé les yeux physiques, c'est l'image de ça, où Dieu veut qu'on puisse voir davantage, même dans l'esprit, que physiquement. Alors ce matin, Dieu ne veut pas venir fermer nos yeux physiques. Par contre, je suis convaincu qu'il veut venir ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir Ça, je suis convaincu que Dieu désire le faire. Et je le désire dans ma vie, une dimension bien plus. Je désire qu'un upgrade, une mise à jour de cette caméra thermique pour voir bien plus les choses et pas être ballotté, mais être enraciné pour porter du fruit et qu'on puisse s'emparer du pays promis. Et j'ai quasi terminé, mais bien sûr que la puissance de Dieu, guérir les malades, va nous permettre de conquérir le pays. Mais la clé indispensable pour ne pas se faire avoir, comme Josué avec les Gabaonites, ou comme la défaite face à la ville d'Aï, pour ne pas agir trop vite comme Saül, qui a finalement même perdu son ministère, c'est ce discernement de Dieu pour distinguer le bien du mal, mais surtout le bon du meilleur. Le bon du meilleur. Et en conclusion, le discernement nous protège de ce qui paraît bon pour aller dans ce qui est le meilleur, pour distinguer le bon timing, pour distinguer les bonnes idées des idées de Dieu, des vraies idées de Dieu. Et le discernement, ce n'est pas voir plus, mais c'est voir plus juste. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Et moi, j'ai envie d'aspirer à ça. Comme disait Paul, aspirer, brûler de désir pour ses dons. Et c'est une faveur que Dieu veut nous donner, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et j'aimerais qu'on puisse simplement, pour terminer, j'ai envie de prier vraiment ensemble pour qu'on puisse ensemble aspirer et désirer avoir ce don dans notre panoplie. Et j'aimerais encourager vraiment, vous encourager pour ceux qui sont touchés vraiment par ce message, cette pensée, qui désirent ce plus. Et je crois que quand on désire plus, c'est de le montrer aussi quelque part physiquement, c'est qu'on puisse se lever ensemble. Et moi, je suis déjà debout parce que j'ai envie de plus de ce discernement. J'ai envie de voir comme Dieu voit. J'ai envie de discerner comme Dieu discerne. Et j'ai envie de prier pour libérer vraiment ce don de discernement. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Et je te prie de venir ouvrir nos yeux. Je te prie d'ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, parle plus fort que ce qu'on voit, que ce qu'on entend. J'aimerais maintenant libérer au nom de Jésus ta présence, la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Et dans ta présence, Saint-Esprit, il y a toute la panoplie. Il y a la puissance, il y a la guérison, il y a la révélation, mais il y a ce discernement. Et Seigneur, moi j'ai envie de voir au-delà de ce que je vois physiquement. J'ai envie de voir au-delà des évidences, des apparences, au-delà de ce que j'entends. Seigneur, j'ai envie de comprendre et de savoir quelle décision prendre dans ma vie. J'ai envie de saisir et de savoir quand partager telle pensée à telle personne. Finement, le timing qui vient de toi, discerner les saisons, le avec qui, le comment. Et ça, c'est des choses qui viennent de toi. Et Saint-Esprit, on veut aspirer à ça ce matin. Aspirer à ce don le meilleur, le plus utile, un des plus utiles. Seigneur, on veut brûler de désir pour ça. Et je te prie, Saint-Esprit, de libérer, d'ouvrir les yeux. Seigneur, comme tu as fermé mes yeux physiquement, mais tu m'as ouvert les yeux spirituels à un moment donné. J'aimerais prier maintenant que les yeux spirituels maintenant s'ouvrent au nom de Jésus. Que ces yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent aussi au nom de Jésus pour saisir et entendre ta voix quand tu parles. Seigneur, aussi que tous les sens de sentir ta présence, de voir quand tu nous touches, tous les sens, Seigneur, soient spirituels, soient plus forts que même les cinq sens physiques, Seigneur. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. On a tellement besoin, dans ces ténèbres, de voir au-delà des ténèbres, de voir comme avec ces caméras thermiques, de voir où sont les dangers, les géants, où sont les portes ouvertes, où sont les opportunités. On désire s'emparer de ce pays promis et on désire vraiment y aller avec ton esprit, avec ton esprit. Saint-Esprit, libère ta présence ce matin. Touche les cœurs, ouvre les yeux et que les aveugles voient au nom de Jésus. Alléluia. Viens Saint-Esprit, viens toucher les cœurs ce matin. Viens Seigneur, viens ouvrir Seigneur ses yeux. Seigneur, viens donner cette perspective qui vient de toi. Viens ouvrir Seigneur au-delà de ce qui est humain, au-delà de ce qu'on ressent, au-delà de ce qui est charnel. Mais ouvre Seigneur un regard spirituel. Seigneur, pour que nous soyons des hommes et des femmes matures, qui sachons discerner non seulement ce qui est bien et ce qui est mal, mais ce qui est bon de ce qui est le meilleur et le plan qui vient de toi. qu'on puisse entrer, Seigneur, dans ta destinée, entrer dans ce pays promis, entrer dans ton appel. Viens, Saint-Esprit, touche les cœurs, Seigneur, ce matin. Chacun là où il est, Seigneur, puisse aspirer, brûler de désir d'avoir ce discernement. Viens toucher les vies, Seigneur, ce matin. Touche les cœurs, Seigneur, et que les écailles tombent au nom de Jésus, afin que, comme Paul, on puisse voir, voir ta gloire, voir ce que tu fais. Viens, Saint-Esprit, continuons de chanter, de nous ouvrir vraiment à l'action du Saint-Esprit ce matin.